Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une semaine spéciale que nous propose Franck Ferrand sur Europe 1 pour célébrer la 200e d'Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Une programmation particulière en effet, puisque je demande cette semaine aux descendants d'un certain nombre de grands personnages de venir nous parler de leur ancêtre.
Royal ancêtre aujourd'hui, et puisqu'il s'agit de Louis-Philippe Ier.
Louis-Philippe Ier, roi des Français de 1830 à 1848, et pour nous parler de ce très intéressant personnage, j'ai convié à nous rejoindre un de ses arrière-arrière-petits-enfants, dont la mère était princesse de France, née Orléans, son Altesse royale, le prince Michel de Grèce, est avec nous dans ce studio.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans ces très intéressants et très captivants mémoires insolites qui sont parus chez Ixo il y a un couple d'années maintenant, Michel de Grèce revient sur la vie, sur le destin extraordinaire de Louis-Philippe, de son arrière-arrière-grand-père, du côté par la branche maternelle. Il reconnaît d'emblée, du reste, que Louis-Philippe est son ancêtre préféré. Et je ne résiste pas, à titre d'entrée en matière, au plaisir de vous lire l'espèce de résumé qu'il brosse à la hussarde de la vie de cet ancêtre extraordinaire, de ce roman si prodigieux, nous dit-il, que personne n'oserait en inventer un semblable. Né au cœur de l'Ancien Régime, ce prince du sang est baptisé par Louis XVI et Marie-Antoinette. Il connaît Versailles, la cour. À la Révolution, il épouse les convictions de son père, nous dit le prince Michel de Grèce. Il s'engage dans l'armée révolutionnaire et devient général jacobin. Il prend part aux batailles de Valmy et Jemappes. Elles ne sont pas très sanglantes puisque l'une d'elles ne fait même pas un mort. Mais il restera tout de même le seul prince français de l'époque à s'être battu pour défendre son pays. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Lorsque le père du futur Louis-Philippe, qu'on appelait Philippe Égalité, au moment où le prince citoyen est arrêté, le jeune Louis-Philippe s'est réfugié en Suisse. Et avant cela, bien entendu, il a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de chefs révolutionnaires, notamment au lendemain de la bataille de Valmy. Dumouriez, pour le récompenser de sa belle conduite à Valmy, l'a envoyé à Paris avec pour mission de rendre compte au gouvernement des péripéties d'une bataille qui, en vérité, n'en était pas vraiment une. Il s'appelle le duc de Chartres à l'époque. On voit donc le duc de Chartres accourir chez le ministre de la guerre, qui s'appelle Servan, qu'il reçoit du reste très mal. Il y a là un personnage que ne connaît pas le duc de Chartres et qui lui dit « Venez chez moi, je suis le ministre de la Justice ». Et le ministre en question, c'est Danton, qui le convie donc à venir le rencontrer. « Un conseil avant votre départ », lui dit Danton, qui lui a obtenu tous les sauf-conduits que demandait le jeune prince. Le jeune prince en question, vous avez bien compris qu'il s'agit du futur roi Louis-Philippe. « Vous avez du talent, dit Danton, vous arriverez, mais défaites-vous d'un défaut, vous parlez trop. Vous êtes à Paris depuis 24 heures et déjà plusieurs fois vous avez blâmé l'affaire de septembre. Je le sais, je suis informé. » Ce que désigne Danton par cette affaire de septembre, ce sont les épouvantables tueries de prisonniers, vous savez ce qu'on a appelé les massacres de septembre. Mais, riposte justement le jeune prince, mais c'est un massacre. Peut-on s'empêcher de trouver que c'est horrible ? « Ce massacre, c'est moi qui l'ai fait, réplique Danton. Tous les Parisiens sont des gens foutres, il fallait mettre une rivière de sang entre eux et les émigrés. Vous êtes trop jeune pour comprendre de telles choses. Retourner à l'armée, c'est le seul poste aujourd'hui pour un homme comme vous et de votre rang. Vous avez un avenir, mais n'oubliez pas qu'il faut vous taire. » Et Danton ajoute, c'est en tout cas ce que Louis-Philippe prendra plaisir plus tard à raconter, il ajoute « L'Ancien Régime a fait son temps. On ne reviendra pas en arrière et les conquêtes de la Révolution ne risquent rien. Elles subsisteront toujours. Une monarchie démocratique sera établie. Jamais la France ne supportera la branche aînée de votre famille. Là, Danton aurait été surpris d'apprendre que les deux frères de Louis XVI et Louis XVIII et Charles X régneront néanmoins après la Révolution. Tandis que vous, précise le leader révolutionnaire, vous qui avez combattu sous le drapeau tricolore, vous aurez de grandes chances de régner. Aussi votre devoir est de vous réserver. Je vous étonne sans doute en vous tenant ce langage. Mais vous reverrez jamais, oh, vous aurez une tâche difficile, celle de donner à ce peuple les deux biens qu'il désire le plus et qu'il sait le moins garder, l'ordre et la liberté. Alors, quelle est la part de vérité et quelle est la part d'enjolivement dans cette anecdote que Louis-Philippe racontait lui-même? Toujours est-il que la prophétie de Danton un jour s'accomplira. Un jour, c'est au moment de la Révolution de juillet 1830. Mais vous avez bien compris que nous n'en sommes pas encore là. Je vous parlais du moment où le père du futur Louis-Philippe est arrêté. À ce moment-là, Louis-Philippe est en Suisse. Et je reprends le récit que nous donne Michel de Grèce de cet extraordinaire aventure qu'a été la vie du jeune Louis-Philippe. Paria sans le sou, écrit le prince. Il parvient à être engagé comme professeur de géographie dans un collège suisse, mais sa fausse identité est démasquée. Il voyage alors jusqu'au Grand Nord, qu'il est le premier français à atteindre. Il en profite pour faire un enfant à la fille ou à la sœur d'un pasteur local, d'où une descendance lapone tout à fait authentique et qui existe encore. Puis il se rend aux États-Unis. Il s'aventure au Kentucky, soigne des Indiens dans la forêt et pour un peu deviendrait leur sorcier. Il visite la Nouvelle-Orléans. Pour un prince d'Orléans, ça ne s'invente pas. Il passe par Cuba, où là aussi il s'éprend d'une dame à qui il laissera par testament deux grosses émeraudes, faites exceptionnelles pour lui. Peut-être en a-t-il eu un enfant. Et avons-nous des cousins cubains ignorés? Se demande Michel de Grèce.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui nous dresse aujourd'hui sur Europe 1 le portrait du roi Louis-Philippe.
Vous avez bien compris que la vie de Louis-Philippe est extraordinaire. Nous avons tous en mémoire le roi citoyen, le roi bourgeois, avec son parapluie qui vit tranquillement entre les Tuileries et Versailles, avec sa famille qui elle-même a presque l'air d'une famille bourgeoise, même s'il ne faut pas s'en tenir aux apparences. Mais la vérité, c'est que pendant sa jeunesse, Louis-Philippe a connu tous les pays, toutes les aventures. On l'a vu dans le Grand Nord, on l'a vu aux États-Unis et à Cuba. Eh bien, après Cuba, il arrive en Sicile, nous raconte son descendant Michel de Grèce, dans la cour la plus réactionnaire d'Europe, écrit-il. Lui, dont le père a voté la mort de Louis XVI, il ose demander la main de la nièce de Marie-Antoinette. Le comble, c'est que la mère de la jeune fille, Marie-Caroline d'Autriche, qui est reine des deux Siciles, accepte. « Je devrais vous haïr, mais vous m'êtes sympathique », lui dit-elle en substance. Il épouse Marie-Amélie, à laquelle, exemple quasi unique dans la famille, il restera fidèle toute sa vie. La chute de Napoléon améliore considérablement sa situation, puisqu'à ce moment-là, son exil s'achève. Et j'aimerais revenir un instant sur ce retour de Louis-Philippe, qui, après les 100 jours, parce que vous savez que Napoléon est revenu quelque temps au pouvoir, décide de mettre un terme à son exil. Il revient en 1817, il est duc d'Orléans à ce moment-là, et les 15 années qu'il va passer là avec son épouse Marie-Amélie de Bourbon et de Sicile et leurs enfants, ces années vont rester sans doute comme les plus heureuses de leur vie. En 1830, une révolution spontanée, courte et violente, raconte Michel de Grèce, renverse le roi Charles X, son cousin, et lui apporte la chance de sa vie. La couronne lui est offerte, il l'accepte. Il devient non pas roi de France par la grâce de Dieu, il devient roi des Français par la grâce d'une charte valant constitution. C'est donc bien un début de monarchie constitutionnelle qui s'installe en France. Et pendant 18 ans dès lors, entre 1830 et 1848, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, il a refusé de régner sous le titre de Philippe VII, il ne voulait pas de ce nom qui s'inscrivait trop dans la continuité de tous les monarques de droit divin. Louis-Philippe Ier, roi des Français, va donner la paix à la France, ce qu'elle n'avait quasiment jamais connu. 18 ans de paix consécutive, vous imaginez ? 18 ans, écrit Michel de Grèce, où ce pays se développe économiquement et devient l'aimant intellectuel et artistique de l'Europe. Toutes les illustrations des arts et des lettres se retrouvent à Paris, capitale du libéralisme. En remerciement de cette ère de prospérité et de calme qu'il donne à la France, il subira 32 attentats et j'ajouterai, pour ma part, il subira aussi l'opprobre puisqu'il partira en février 1848 sous les huées d'une foule en révolte. En tout cas, Paris se révolte. Une fois de plus, ce sera la révolution de 48 qui va donner naissance à la Deuxième République. Je cite encore Michel de Grèce. « Dès qu'on prononçait le nom de Louis-Philippe dans la famille, écrit-il, tout le monde éclatait de rire. Son bedon, ses rouflaquettes, son parapluie excitaient l'hilarité. Qu'on le veuille ou pas, ce n'en était pas moins le grand homme de la famille. » En fait, sans trop se l'avouer, elle trouvait cette famille le côté démagogique et bourgeois de Louis-Philippe humiliant. Et vous parlez de votre grand-mère, Monseigneur, en disant « Jamais elle ne se serait abaissée à une telle comédie. Notre ancêtre le plus fameux était le souverain du juste milieu. Or, ma grand-mère n'aimait que les extrêmes, quels qu'elles fussent. » Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette figure de votre ancêtre Louis-Philippe. Et je vous connais, j'ai cette chance depuis longtemps et je sais que vous ne manquez jamais une occasion de faire référence à Louis-Philippe, de raconter toutes sortes d'anecdotes à son sujet. Il est, j'ai presque envie de dire, vous vivez avec lui.
C'est beaucoup dire. Mais si vous voulez, je me sens pas mal de références avec lui, presque de complicité. Il y a beaucoup de choses que je comprends chez lui. Parce que c'est un homme multiforme, un personnage très ambigu, bien qu'il n'en ait pas l'air. Et voilà, je l'aime bien, je le comprends et je partage un peu ce qu'il a fait.
Eh bien, vous allez partager à satiété, puisque je vous propose, Monseigneur, dans les minutes que nous avons devant nous, de revivre la vie de Louis-Philippe et d'essayer de cerner au plus près le personnage.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Michel de Grèce, fils du prince Christophe de Grèce et de la princesse Françoise d'Orléans. Son trisaïeul n'est autre que le roi Louis-Philippe.
Nous avons l'impression de connaître Louis-Philippe, qui est sans doute un des souverains les plus connus du XIXe siècle. Ouais. Il est le roi bourgeois, il est le roi citoyen. Il est l'homme qui se promenait tranquillement à pied dans la rue avec son parapluie sous le bras, qui saluait les dames, qui serrait la main aux messieurs. On a l'impression quasiment d'un épicier du centre de Paris. Et en vérité, c'était quelqu'un qui avait une idée très haute et très précise de ses origines.
D'abord, il marchait, vous dites, mais ça devait être tout de même un grand sportif, parce qu'il allait à pied des Tuileries où il résidait, jusqu'à Neuilly, où il avait
sa résidence
secondaire, dirions-nous. Donc c'est tout de même pas mal de marches. C'est un personnage ambigu parce que, en effet, cet aspect du roi bourgeois n'est pas très attrayant, il faut bien dire. Avec ses vieux vêtements, un peu le dos courbé, son chapeau qui luisait de vieillesse, enfin bon, c'était pas le... Et le fameux parapluie. Et il donne l'impression d'être quelqu'un de totalement démocratique, d'être très simple d'abord. Simple d'abord, il l'était, démocratique. Or, il cachait soigneusement qu'il était infiniment orgueilleux de son origine et qu'il, d'une façon subtile, ne manquait pas de le rappeler.
Quand on prend ses propres ancêtres, en l'occurrence pas direct, celui auquel il ressemblerait le plus, c'est Louis XIV. Il descendait, rappelons-le, du frère de Louis XIV, de monsieur.
Mais forcez pas à dire des méchancetés sur Louis XIV, parce que je trouve...
Vous en avez beaucoup écrit.
Je trouve Louis XIV pas très intelligent, alors que Louis-Philippe l'était très. Et puis Louis XIV n'avait pas cette simplicité d'abord qu'avait Louis. Louis-Philippe était tellement sûr de ce qu'il était, qu'il n'avait pas besoin de prendre des grands airs. Louis XIV prenait des grands airs. Et pendant la Révolution, quand les Orléans n'avaient plus un sou, étaient des exilés presque rejetés par tout le monde, son frère cadet, le Montpensier, est tombé amoureux de la fille d'un duc anglais, richissime, la plus grande famille du royaume, donc c'était l'union parfaite. Louis-Philippe a poussé des hurlements en disant « Quoi ? Cette Anglaise épousait un prince de la Maison de France ?» Mais à l'époque, qu'est-ce que c'était un prince de la Maison de France ? C'était rien du tout. Et déjà paraissait, même dans ces circonstances, qu'il se rappelait fort bien qui il était.
Je reviens quand même un instant sur Louis XIV, car on a l'impression qu'il est assez omniprésent dans les références de Louis-Philippe. Et on raconte cette anecdote qu'au moment de l'inauguration des galeries historiques du château de Versailles, car il avait totalement transformé, chamboulé le château de Versailles pour en faire un grand musée de l'histoire de France.
Avec son argent personnel.
Avec sa cassette personnelle, il ne faut jamais oublier de le dire. À ce moment-là, il disparaît quelques minutes et il revient au milieu des quelques intimes qui sont là. Il y a sa famille et il est habillé, parce qu'il y avait des comédiens qui étaient en train de répéter une pièce de Molière. Il revient habillé en Louis XIV.
C'est-à-dire que des comédiens ont ouvert la porte et ont dit « le roi », comme on disait sous Louis XIV, et tout le monde a cru que c'était le fantôme, parce qu'il ressemblait à tel point à Louis XIV, surtout sous la perruque. On n'imagine pas le roi bourgeois, mais il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Louis XIV, et il avait la même couleur d'yeux.
Voilà,
les yeux étaient d'une couleur très particulière, doré, brun, bleu. Mais tout de même, Louis XIV aimait beaucoup la guerre, Louis-Philippe ne l'aimait pas.
Louis XIV
n'était pas très diplomate, Louis-Philippe l'était.
Et c'est vrai que Louis-Philippe était d'une intelligence exceptionnelle, il faut le dire, on a un peu oublié cet aspect.
Je veux dire, si vous parlez de Louis XIV, je pense que Louis-Philippe, là où il ressemble à son ancêtre, c'est dans le mécénat. Louis XIV, comme on dit.
Grand collectionneur, Louis-Philippe, évidemment.
Alors, vous savez qu'il avait la plus grande collection de tableaux espagnols de l'école espagnole de l'époque. Je crois qu'il avait 24 Velázquez, 90 Greco et je pense 82 Sourbaran, quelque chose d'affolant. Alors, tout le monde s'esbaudit de ce goût et admire Louis-Philippe. En fait, il achetait les tableaux espagnols parce que c'était les moins chers. Il était un peu avare tout de même. Donc on lui a dit, mais ça c'est pas très cher. Alors il en a acheté, il en a fait la plus belle collection, qui évidemment a été dispersée après.
Vous parlez de l'avarice du roi, elle était quand même assez légendaire. On disait qu'il comptait ses sous, si je puis dire.
Alors l'exemple le plus fameux de son avarice, à mon avis, c'est l'histoire de l'obélisque. Bon, vous savez que Louis-Philippe...
L'obélisque de la place de la Concorde.
L'obélisque de la place de la Concorde. Qui a été amené en France par Louis-Philippe, et je le souligne 10 fois, et pas par Napoléon, comme tout le monde le dit. Bon, donc Louis-Philippe a soutenu le pacha d'Égypte, Mohamed Ali, qui s'appelait le Khédive, contre la porte ottomane, enfin le sultan. Et le pacha, pour le remercier, lui donne un obélisque, un des deux obélisques de Louxor, qui arrive à Paris. Nous avions, enfin chez mon oncle, le comte de Paris, il y avait toutes les aquarelles de comment on a monté l'obélisque sur la place de la Concorde, puisqu'il est arrivé couché, évidemment. Bon. Et Louis-Philippe a dit tout de même, il faut que je lui fasse un cadeau pour le remercier. Mais comme il n'était pas très disposé à dépenser beaucoup d'argent, il a acheté, Dieu sait où, une très vieille horloge, très laide d'ailleurs, et qui n'a jamais marché, et l'a envoyé au Khédive, qui, tout fier de ce cadeau, l'a mis sur la grande porte de la citadelle du Caire, où elle est toujours. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais marché, ni maintenant. Et à mon avis...
Joli cadeau, quand même.
Mais je crois qu'il l'a dû acheter de seconde main. Mais ça, contre l'obélisque, c'est tout de même un exemple un peu d'avarice, non ?
Le seul point par lequel Louis-Philippe ressemble à la bourgeoisie, écrivait il y a une cinquantaine d'années maintenant Jules Berthaud dans un très joli portrait psychologique de votre ancêtre. Il nous dit que le seul point où cet aristocrate jusqu'au bout des ongles en vérité ressemble à la bourgeoisie, c'est par son amour de l'argent. Si spirituelle que soit sa conversation, elle roule trop souvent sur des affaires d'argent, sur la fortune, sur les différentes façons de s'enrichir ou de se ruiner. Il proteste parce que sa liste civile n'est pas assez considérable, parce que ses enfants ne sont pas lui dotés, parce qu'il ne peut parvenir à mener à bonne fin les travaux qu'il a entrepris. Sa manie est de se dire ruiné, à bout de force, à la côte, comme on disait.
Alors,
à l'époque.
Il y a un exemple qui me fait toujours sourire. Tout de même, Louis-Philippe fait partie de la Révolution, a été un général révolutionnaire, a eu des idées de gauche, non ? Bon, vous savez que lorsque les Bourbons sont revenus en 1814-1815, on a indemniser les aristocrates qui avaient perdu leurs biens pendant la Révolution. Ça s'appelait le milliard des émigrés, parce que je crois qu'on a eu 1 milliard pour donner aux émigrés. Bon, c'était des gens qui avaient tout perdu dans la Révolution. Bon, très d'extrême droite, très religieux, enfin des...
Très ultra, comme on disait à l'époque.
Des grenouilles de bénitier, mais enfin tout de même, ils avaient perdu leur fortune, beaucoup de leurs parents avaient été guillotinés, bon. Qui a eu la plus grosse part du milliard des émigrés ? Louis-Philippe, ancien général révolutionnaire. Donc, tout de même...
Ça donne à réfléchir, finalement. Oui.
Et il y a eu des... Oui, il se bagarrait beaucoup avec sa mère, parce que sa mère était l'héritière richissime.
Alors justement, ce que je vous propose, c'est, oui, puisqu'il nous reste deux parties, oui, de parler du Louis-Philippe d'avant le retour d'exil, oui, et puis nous garderons pour la toute fin de l'émission le Louis-Philippe devenu roi des Français.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1 du concerto numéro 1 composé par Frédéric Chopin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Louis-Philippe, par son arrière-petit-fils Michel de Grèce, c'est le programme que nous propose Franck Ferrand jusqu'à 14h sur Europe 1.
Louis-Philippe avait pour sa famille, pour sa femme, qu'il n'a pas trompé, nous disiez-vous, et oui, pour ses enfants, une véritable passion. Il était d'ailleurs un vrai papa gâteau. Hein. Il n'a pas supporté notamment de marier l'une de ses filles au nouveau roi des Belges. Au moment, ouais, où elle part, on le voit pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il sanglote encore 8 jours après le départ de la princesse.
Mais tout le monde a pleuré à ce mariage. C'est donc Louise d'Orléans qui a épousé Léopold Ier, roi des Belges, à Compiègne. Les fêtes ont duré une semaine et pendant une semaine, toute la famille, Louis-Philippe, Marie-Amélie, les enfants, pleuraient à chaudes larmes, ce qui évidemment n'était pas très encourageant pour le marié. Parce que, bon, c'était pas très sympathique, il faut dire. Mais c'était un... Oui, c'est très curieux parce que, à la différence des Orléans passés et à venir, c'était un homme fidèle à son épouse, qui n'était pas, il faut bien dire, une beauté. Elle avait beaucoup de vertus, mais elle n'était pas très belle. Et pourtant, ils sont restés unis, comme un ménage bourgeois, en fait, tout à fait jusqu'à la fin. Et vous savez, je crois que ce sont les épreuves de la Révolution, tout ce qui s'est passé dans sa famille. Je crois qu'en réaction, il a trouvé une sorte de sécurité dans ses enfants. Il faut dire qu'il avait des enfants, il a eu 5 fils, qui étaient l'un plus beau que l'autre, et tout de même des gens très réussis.
L'une des grandes douleurs, peut-être la plus grande de sa vie, ce sera de perdre son fils aîné et héritier, hein, le duc d'Orléans.
Dans un accident, n'est-ce pas?
Parce que l'accident de voiture, c'est le cas
de dire.
C'est
ce qu'on peut dire, parce que les chevaux de sa voiture se sont emballés et il a cru qu'il fallait sauter pour sauver sa vie. Il a sauté de la voiture et il est tombé et sa tête a heurté une pierre du pavé et il est mort. Et curieusement, le cocher, lui, n'a rien eu parce qu'il a réussi à maîtriser les chevaux plus tard. La mort du duc d'Orléans, donc, était le fils aîné de Louis-Philippe et son héritier.
Ça a eu lieu à la Porte Maillot et d'ailleurs la chapelle Saint-Ferdinand qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est une chapelle commémorative de cette...
Absolument, avec les vitraux dessinés par Ingres. La mort du duc d'Orléans n'a pas seulement été un drame pour la famille, mais un drame politique parce que Louis-Philippe était âgé. Tout le monde trouvait que, bon, il était un peu dépassé déjà, et tout le monde, gauche comme droite, espérait beaucoup à la venue au trône du duc d'Orléans, qui était quelqu'un de remarquable, y compris presque ce que je dirais les intellectuels de gauche de l'époque, comme Victor Hugo, comme énormément de libéraux raffolaient du duc d'Orléans.
Alors, nous allons venir à cette période tout à l'heure. Si je vous parlais des enfants, c'est que le grand plaisir du roi citoyen, et même avant du duc d'Orléans, c'était de raconter au cercle de sa famille les grandes aventures de sa jeunesse. Et Dieu sait qu'il y en avait eu. C'est quand même inouï de l'imaginer en Laponie, aux États-Unis, à Cuba, en Sicile.
Alors, avant de commencer avec ses aventures, je vous dirais que il avait tendance à la fin un peu à se répéter. Mmh. Et les enfants, après avoir entendu pour la 200e fois l'entrevue avec Danton, trouvaient que c'était, il radotait un tantinet. Et je crois que tout le monde se glissait vers la porte du salon pour échapper au récit archi. étonné. Mais bon, ça, c'est une méchanceté. Bref. Alors, oui, mais vous savez, il a imaginé, bon, vous parlez de sa jeunesse, vous imaginez qu'en 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, alors que l'ère industrielle est bien avancée, il parlait comme s'il l'avait vu la veille de Danton, de Robespierre, de Louis XVI, de Marie-Antoinette. Les gens ouvraient la bouche en se disant, mais il invente, c'est pas possible. Parce qu'il a vécu, heureusement, et il était en bonne santé très longtemps. Non, sa vie, c'est ça qui m'amuse chez Louis-Philippe et m'intéresse, c'est que sa vie, comme vous l'avez évoqué, est un roman d'aventure comme on ne l'invente pas tout de même. Qu'il soit né dans la famille royale, très bien, baptisé par Louis XVI, très bien, cordon du Saint-Esprit comme tous les princes, bon, tout ça va bien. Déjà, se mettre dans la Révolution et épouser les idées de la Révolution, ne pas émigrer, bon... On peut dire que ça, il prend un peu la tendance de son père, donc, qui avait adopté le nom de Philippe Égalité. C'était son nom sur son passeport, n'est-ce pas? On peut dire aussi que c'est une tradition libérale des ducs d'Orléans qui s'étaient toujours un peu opposés au pouvoir royal. Mais enfin, tout de même, devenir général révolutionnaire et se battre. Il y avait chez mon oncle Paris un tableau que nous regardions tous les jours parce qu'il était au-dessus de la cheminée de son bureau qui était le conseil de guerre la veille de Valmy, qui nous fascinait. Louis-Philippe en général révolutionnaire avec la ceinture fleur-de-lysée en train de discuter avec les généraux. Il faut dire qu'il était assez beau jeune parce que quand on le voit vieux avec ses bajoures ou flaquettes, il ne donne pas une idée de ça.
Il avait fini par avoir la tête en forme de poire, ce que les caricaturistes, évidemment.
Vous avez raconté cette extraordinaire entrevue entre Danton et lui. J'ai tendance à croire que c'est vrai, parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas l'inventer. Mais très vite après, n'est-ce pas, il va émigrer, enfin, entre parenthèses, fuir.
Mais oui, bon, c'est ça, bien sûr.
Mais parce qu'il était, lui et Dumouriez, étaient menacés. Ils savaient qu'ils allaient être arrêtés par les révolutionnaires et probablement, je ne sais pas quoi. Enfin, on savait ce que ça voulait dire.
C'était dangereux, oui, c'était très dangereux.
Donc, il est passé à l'étranger.
En Suisse d'abord, et puis ensuite.
Et je pense que cette défection, dirons-nous, a été une, et je pense qu'il le savait, a été une des causes de l'arrestation de son père et de ses frères, ainsi que de l'exécution du père. Bon, ce n'est pas lui le responsable, si vous voulez, mais tout de même. C'était lui ou ça, voilà.
Et comme il est incognito, réfugié incognito, lorsqu'il apprend la mort de son père,
Il ne peut pas cacher, il ne peut pas montrer son chagrin, prendre le deuil, parce que il était menacé.
Ça, c'est une chose terrible, n'avoir pas le droit de son chagrin, son chagrin.
Je crois que beaucoup plus tard, c'est ça qui expliquera ses liens exceptionnels avec sa sœur survivante, Madame Adélaïde, parce que ils étaient les deux seuls qui pouvaient parler du passé sans... ils avaient vécu tout ça sans créer des remous.
On disait de Madame Adélaïde qu'elle était le meilleur ami du roi.
Ils étaient les deux seuls survivants de cette extraordinaire aventure.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et à l'occasion de la 200e émission et du premier anniversaire de Au cœur de l'histoire, Europe 1 met en place une semaine spéciale consacrée aux descendants de personnalités historiques qui se mènent jusqu'à vendredi 23 mars précisément. Et cet après-midi sur Europe 1, Michel de Grèce évoque son aïeul, le roi Louis-Philippe Franck.
L'un des ouvrages les plus cocasses sur la monarchie de Juillet, ça s'appelle « 25 ans à Paris, 1826-1850, journal du comte Rodolphe Apponi, qui était attaché à l'ambassade d'Autriche-Hongrie ». Alors j'en ai lu tout à l'heure.
C'était une vilaine punaise qui disait des horreurs de ma famille, du matin au soir. Et je ne dirai pas, mais j'ai trouvé des choses qui ne sont pas très complimenteuses sur ce comte d'Apponi, surtout les rapports de la police secrète.
Oui, il n'était pas...
Sur sa vie privée.
Ah ben voilà, donc ça c'est...
Alors, il n'avait qu'à se taire, celui-là.
C'est la réponse du descendant.
C'est la réponse du descendant, mais allez-y, vous.
Alors, l'attaché en question, il était donc attaché autrichien, raconte un peu la vie quotidienne au Palais Royal, à l'époque où Louis-Philippe n'était encore que duc d'Orléans, et puis surtout aux Tuileries, quand la famille est montée sur le trône, si je puis dire, quand Louis-Philippe est devenu le roi des Français. Et c'est Gosselin le Nôtre, vous savez, le pape de la petite petite histoire, oui, qui a repéré dans ses mémoires, dans ce journal du comte Apponi, l'évocation d'un déjeuner au cours duquel le roi découpe lui-même la volaille. « Que c'est beau de voir le roi découper », dit une voisine à l'attaché autrichien. Et le roi découpait en effet une grosse poularde truffée avec une adresse, une grâce que peu de chefs de cuisine eussent égalée. À ce moment, le comte s'entend interpeller. C'est le roi qui parle. « Comte Rodolphe, désirez-vous une aile, une cuisse ou du blanc ?»« Si votre majesté veut m'honorer d'une aile, je m'empresserai de mettre mes remerciements aux pieds de votre majesté. » »« Pour le comte Rodolphe Apponi, » dit le roi en déposant une aile sur une assiette. Et pendant ce temps, la reine distribuait, dit-on, des écrevisses. Et ce qui est le plus drôle, c'est la conclusion qu'en tire, bien entendu, Gosselin le Nôtre. Ainsi, Louis-Philippe découpait et servait lui-même les viandes à ses invités, dit-il. Tel était, personne ne l'ignore, l'habitude familiale. Mais remplir cet office, un dîner officiel, un dîner de 50 couverts, voilà qui paraît incroyable, c'est au moins 8 poulardes à dépecer l'une après l'autre. Ajoutez à cela le temps de questionner chacun sur sa préférence, d'écouter sa réponse, profondément respectueuse et fort bien tournée, on l'a vu, ce qui implique, soit dit en passant, un silence général et attentif, le temps d'envoyer le morceau demandé, après avoir eu soin de puiser une truffe ou deux dans la carcasse béante de la bête et d'arroser la portion d'une cuillerée de jus. Combien d'heures restait-on donc à table ? Et le roi partageait-il encore lui-même le filet de bœuf et les cuisseaux de chevreuil ? Alors, quand mangeait-il ? Il devait être fourbu à la fin du repas. Et puis, quelque adresse qu'on y apporte, découper une volaille, surtout lorsqu'on est assis, n'est pas un labeur qui va sans tache et sans éclaboussure. Imaginez-vous Louis-Philippe, couvert de sa serviette jusqu'au menton, demande avec une certaine mauvaise foi Gosselin le Nôtre, qui feint d'ignorer que le roi, à mon avis, distribuait la viande à sa table et pas à toutes les tables d'invités.
Mais aussi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'étonne, parce que c'était une tradition de l'aristocratie.
Bien sûr.
Talleyrand faisait exactement la même chose. Mais évidemment, c'était aussi une cour qui se voulait un peu popote. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas tout le protocole des Bourbons, justement, par réaction.
Mais c'est ça, justement, Michel de Grès, c'est à ça que j'aimerais qu'on vienne.
Oui.
C'est-à-dire à cette espèce de double jeu de Louis-Philippe, notamment pendant les deux premières années de son règne. Après, ça a tendance à se calmer. Mais au tout début de son règne, on a ce prince intimement conscient de ses origines, qui sait parfaitement qui il est, etc., qui refuse, vous l'avez dit, des alliances qui lui paraîtraient indigne de ses enfants, et qui feint de vivre comme le dernier des bourgeois, qui feint le côté popote. On peut presque dire qu'il se déguise ou qu'il joue la comédie. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Bonne question. Je pense que, tout de même, l'expérience qu'il a vécue pendant la Révolution lui a fait comprendre que les privilèges, les palais, les beaux uniformes et les carrosses, c'est tout de même aléatoire et qu'on peut perdre tout ça puisqu'il les avait perdus. Donc, il n'était plus très attaché à tout ce décorum. Je pense aussi que cet homme intelligent a fort bien compris son époque. Il a compris que l'aristocratie, c'était fini et que la bourgeoisie arrivait enfin au pouvoir. De la même façon qu'un peu plus tard, la reine Victoria le comprendra pour l'Angleterre.
Donc il fallait donner des gages à cette nouvelle classe, en fait.
C'était la classe dirigeante après l'aristocratie, ainsi que les banquiers à qui il donnait des gages. Je pense qu'il a été très populaire dans cette bourgeoisie, justement parce qu'il l'a compris. Et, si vous voulez, c'est très curieux, c'est un mélange de grand orgueil dynastique et de tout de même de grand réalisme politique, voilà. En deux mots. Et aussi, il avait, contrairement au roi Bourbon, il avait le goût des écrivains, des artistes, non pas des œuvres d'art, mais des personnages qu'il créait et qu'il recevait dans son entourage tout le temps.
Nous avons vu ce personnage tout à fait à la hauteur de ses responsabilités. Nous l'avons découvert d'une grande intelligence, d'une réelle bravoure, d'une finesse incontestable, d'une bonne intention politique et toujours tournée vers la paix. Même s'il était un peu radin, ça vous nous l'avez dit. Bon, ça c'est le travers du personnage. Comment expliquer dans ces conditions que dans votre famille, chez les Orléans, il n'ait pas eu très bonne presse ?
Ah non, ce n'était pas qu'il avait une mauvaise presse. Tout le monde l'admirait beaucoup. Je n'ai de ma vie vu autant de portraits de Louis-Philippe que dans la famille. Je me rappelle, chez les descendants de sa fille, Marie de Wurtemberg, Marie d'Orléans qui avait épousé Wurtemberg, dans une chambre d'amis que j'habitais chez les Wurtemberg, j'avais conduit 18 effigies de Louis-Philippe.
Dans la même pièce.
En porcelaine, en bois, en tableau, en gravure. Bon. Non, la famille était assez fière, mais on trouvait un peu grotesque avec son parapluie et son gros bedon, en oubliant tout l'autre côté. Et vous parliez d'avarice. Mon oncle Paris avait un jour trouvé dans les archives...
Le comte de Paris
avait trouvé dans les archives de la famille les notes de blanchisserie écrites de la main de Louis-Philippe. Alors il s'est dit tout de même, l'avarice va un peu loin de noter pas, lessive de deux draps, tant. Et puis il les a lus, il les a relus, et s'est aperçu que c'était un code, et qu'en fait, c'était des poèmes pornographiques.
Tout est dit.
Alors je ne peux pas vous décider, mais sous forme de notes de blanchisserie de la main de Louis-Philippe. Voilà.
C'est dommage qu'on ne les ait plus.
Je crois qu'ils sont dans nos archives, mais peut-être pas accessibles à tout le monde.
Michel de Grèce, Mémoires insolites, c'est publié chez Ixo. C'est là qu'on parle évidemment de la vie extraordinaire de Louis-Philippe. Qu'est-ce qu'on peut citer de plus récent parmi vos nombreuses œuvres ?
Le dernier, c'est, vous savez, cette histoire qui me passionne, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est pour ça que je le dis, qui est le vol des diamants de la couronne pendant la Révolution à Paris, place de la Concorde.
Le vol du régent, ça s'appelle.
Le vol du régent qui me passionne. Louis-Philippe avait de fort beaux bijoux. Il avait racheté des bijoux assez intéressants, des bijoux que j'ai bien connus. Louis-Philippe a tout de même racheté les saphirs qui avaient appartenu à Marie-Antoinette.
Merci beaucoup, Monseigneur, de avoir fait revivre pour nous votre ancêtre préféré. Et notre princesse à nous est arrivée dans ce studio. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à vous tous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne va pas être une émission très joyeuse, quoique nous allons parler du surendettement, mais avec les experts européens, nous allons décider de 1. vous éviter de tomber dans le surendettement et 2. de vous en sortir. Nous avons déjà fait une première émission sur ce thème et vous aviez été tellement nombreux à nous appeler et bien qu'on récidive aujourd'hui. C'est donc une émission spéciale et puis restez avec nous, vous verrez, en toute fin d'émission, nous parlerons de l'opération Manpower et Europe 1, dont l'objectif est de mettre en contact des recruteurs avec des demandeurs d'emploi et ça marche. Allez, à tout de suite avec les experts européens.
Merci Elena, à demain Julia.
Avec grand plaisir sur Europe 1, à demain cher Franck.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.